La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Jacques 1, versets 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Bonjour à tous. C'est avec joie que je partage avec vous le cours de ce matin. C'est avec joie aussi que je vous vois là. Principalement pour les trois derniers membres de cette église. Catherine, qu'elle est tout en haut, Rachel, ici en bas, et Philippe, je ne le vois pas, mais peut-être il est là aussi. C'est un plaisir de partager avec vous la parole ce matin. Mais Laurent, tout à l'heure, il avait dit que j'avais un problème. Je n'ai pas un problème, j'ai deux problèmes. Bon, j'ai plusieurs problèmes, mais ce matin, j'ai deux problèmes. Un, c'est vraiment, c'est la voix. Voilà, je pense qu'on va quand même réussir. Et un deuxième problème, vous le regardez dans le diapo, parce que normalement, je devrais prêcher pour faire une transition, pour avoir une connexion entre le programme de cet après-midi. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce que nous avons cet après-midi? Voilà, c'est une fête, voilà, mais quelle fête? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce programme? Quand je suis arrivé ici en 2015, je suis arrivé à peu près au mois d'août, septembre, et au mois d'octobre, novembre, j'ai appris qu'il avait une fête. Et j'ai dit, ah oui, c'est bon, voilà, moi, l'église que je viens aussi, on avait la fête. C'est quoi la fête que vous avez? Ah, nous avons une fête de Noël. Ah, excusez-moi, c'est pas une fête de Noël, c'est une fête fin d'année parce qu'on ne peut pas appeler Noël. Je me suis dit, ah bon, ah, d'accord, ok, mais comment ça fonctionne cette fête? Qu'est-ce que vous faites? Donc, déjà, est-ce qu'elle est avant le 25 ou est-ce qu'elle est le 31 de décembre? Parce que moi, dans ma culture, dans l'église que je viens, on avait une fête qu'on appelait fête de fin d'année, que c'était le 31 décembre au coucher du soleil. On venait à l'église, pas tous, mais les gens qui pouvaient, et on faisait la transition d'année tous ensemble, à louer notre Dieu, à remercier pour tout ce qu'on avait eu l'année, à demander des bénédictions pour la nouvelle année, voilà. Donc c'était ça le sens. Donc dans mon fonctionnement, une fête fin d'année, c'est ça. Mais c'est ma culture, hein, voilà. Donc le souci, c'est avec moi, c'est pas avec vous. Est-ce que vous avez une fête que vous venez tous, qu'on va quand même, il y a les enfants qui viennent chanter, après on a des poèmes, on parle de Jésus, on parle de l'amour, voilà. Quel est le contenu de la fête? Ah oui, c'est un petit peu ça, mais c'est une fête de fin d'année. Bon, ok. À moi, ça ne m'embête pas. J'ai commencé tout de suite à appeler fête fin d'année. Même l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être dans l'organisation. Et on l'a appelé fête de fin d'année. Et cette année, je pense que c'est exactement la même chose. Mais ça me fait réfléchir un petit peu. Cette image, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'avais mis. Parce que ça donne un petit peu... Ça met la question en visuel. Parfois, c'est plus simple et plus facile qu'on puisse comprendre les choses avec le visuel. Voilà. C'était ça l'encadrement à l'époque. Et même dans des années qu'on ne pouvait pas... parler de mon Noël parce que sinon on aurait seulement la moitié de l'église. Donc comme j'aimais toujours d'avoir tout le monde là avec moi, on a appelé fête de fin d'année pour que vous puissiez tous être là. Parce qu'il avait des symboles qui n'étaient pas du tout chrétiennes, voilà. Voilà. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais ce matin... Je n'irai pas parler de tout ça parce que je suis sûr que vous connaissez beaucoup plus que moi, parce que nous sommes tous des experts. Mais j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir ensemble et qu'on puisse comprendre un petit peu cette question. Et d'abord, je partage avec vous je partage avec vous, j'ai fait deux sélections. Une sélection des images de Noël, donc quelques photos, hein, vous allez sur Google et vous trouvez pas mal de photos, mais que ça concerne cette époque-là. Qu'est-ce que vous regardez là? La famille, le fameux sapin de Noël, bien sûr, il est là. Hein. Le Père Noël, pourquoi pas, il a des symboles du Père Noël. Mais je vois les enfants, je vois la famille, l'amour. Voilà, des mots, peut-être vous avez aussi des autres mots qui donnent un encadrement à ça. Et je partage aussi avec vous des photos pour la fin d'année. Je vois le réveillon, je vois la fête, hein, les amis, la foule, tous ensemble. La joie d'un nouvel année aussi, le feu d'artifice, le champagne, c'est aussi un symbole de cette époque-là. Même nous, on ne le boit pas. Aujourd'hui, on a des champagnes sans alcool. Donc voilà, on peut aussi profiter d'avoir aussi le champagne dans cette époque-là. Donc avec ces deux synthèses d'images, j'ai mis quelques mots. Il faut que je regarde derrière moi. Donc le Noël, quelques mots que j'ai sélectionnés, hein, je suis sûr que vous aussi vous allez avoir des mots, peut-être le même ou des autres. Le Noël, donc j'ai la famille, l'amour, Jésus, le sapin de Noël, la consommation aussi, hein, elle est là. Le Père Noël, les enfants, l'amitié, les cadeaux, oh les cadeaux. Moi j'aime bien les cadeaux. Et pour rapport à tout ça, à la fin d'année, l'alcool, hein, le réveillon, l'excès, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup cette expression, excès, on fait des excès, voilà, excès. Voilà. Le feu d'artifice, la musique, la danse aussi, le champagne, les amis, la foule. Et je me posais la question, mais pourquoi ils préfèrent appeler à ça fête fin d'année? Pourquoi ils ne préféraient pas appeler fête de Noël? Si je vous demande tout de suite, quel est le groupe que vous choisissez de les deux? Même si on a des mots que moi aussi, dans les deux côtés, il y a des mots que je ne suis pas à l'aise, hein, je ne suis pas d'accord avec eux, peut-être. Peut-être vous aussi. Mais ça, c'est d'un point de vue du monde. Mais d'un point de vue entre nous, chrétiennes, quel est le groupe de mots qu'on choisit tout de suite? Je pense que ce n'est pas très difficile. Hein. On allait sur les mots qui sont là, la famille, l'amour, Jésus, même le sapin, si on n'est pas d'accord avec le sapin, c'est un symbole, voilà. La consommation, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'il est là, cette mot, il est là. Le Père Noël, voilà. Donc, dans cette réflexion, avec les images, avec cette sélection de mots, je suis allé un petit peu plus loin. Bon, les mots qui sont là, ils m'ont fait réfléchir au verset que nous avons tout à l'heure écouté avec Ré. Donc Jacques 1, 22, 24. On va lire ensemble. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique. Elle semble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Donc, Jacques, il nous parle ici d'un côté pratique des choses. On pourrait dire que peut-être nous avons ici deux groupes différents de mots. Un groupe dans la pratique, un groupe plus de mots pratiques, et un groupe de mots plus le contraire de pratique, c'est la théorie, théorique. Par exemple, quand Jacques nous parle, il dit « Regardez dans un miroir ». Ça, c'est quelque chose de pratique. Je prends un miroir, je le regarde, c'est une action, donc c'est un verbe. C'est quelque chose que je peux le faire moi-même. Donc, je peux mettre cette action en pratique. Regardez le miroir. Mais le mot « miroir » lui-même, ce n'est pas un mot assez pratique. Bon, je peux avoir le miroir sur la main. Mais c'est un mot que, si j'ai besoin de parler de lui, j'irai entrer beaucoup plus dans un groupe de mots théoriques. J'irais explorer cette mot d'un point de vue théorique. Voilà. Donc, nous avons ici deux groupes de mots que d'habitude sont présentes. Pratique, les actions, les verbes, et théorique, donc tous les restes. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que cette attitude pratique, de mettre les choses en pratique, elle est aussi présente au début de tout. Quand on va dans Genèse, Adam, Noé, Moïse, on va voir que les choses elles sont plus pratiques que théoriques. On va voir que la connaissance, elle est plus une connaissance pratique qu'une connaissance théorique. J'espère que vous pouvez m'accompagner dans mes idées. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas l'écriture. Adam, il ne savait pas écrire. On n'avait pas l'écriture. On n'avait pas l'écriture et les paroles, on la connaissait. Elle était transmise de manière simple et pratique. Les paroles, elles étaient transmises dans ce sens. Basées sur la transmission orale et visuelle. Donc, on transmettait les choses d'une faction orale, on parlait, voilà, et les gens nous écoutent, et visuelle, parce que je regarde qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que ma mère, qu'est-ce que mon frère, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce qu'ils font. En Genèse, le peuple de Dieu il n'a pas commencé son histoire en écrivant des livres. La Bible, avant d'être écrite, elle a été vaincue, racontée, rappeler, raconter et célébrer. La révélation de Dieu aux hommes, elle était transmise pendant de nombreux siècles à travers de la tradition orale. On peut constater ça au psaume 78, 3 à 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il opère. Donc c'était dans ce sens que les choses elles étaient passées de génération en génération. Simple et pratique. Les gens, ils apprirent en écoutant, en voyant, avec les exemples, les choses quotidiennes, on va dire comme ça. Je ne parle pas seulement dans un sens spirituel, je parle dans un sens quotidien. Pour que quelqu'un puisse apprendre à faire l'agriculture, il n'aurait pas dans un livre savoir comment je fais l'agriculture. Pendant des années, il regardait son père ou son frère à faire l'agriculture pour apprendre le métier de l'agriculture. Donc c'était comme ça qu'on faisait la transition des choses. Et c'est aussi intéressant de constater que le début de l'écriture, d'écrire les mots, il a aussi un côté pratique. Nous allons regarder ensemble une barre de temps, une chronologie, et vous allez constater que les flèches bleues, c'est un petit peu petit, mais je pense que vous allez réussir à lire. Les flèches bleues, on a le début de l'écriture. Okay? Donc en 3500 avant Christ, c'est les pictogrammes des Sumériens. En 3000, les Égyptiens avec les hiéroglyphiques. Bon, vous le connaissez bien, c'est plus connu. Et entre 2000 et 1500, le premier alphabet cananéen. C'est intéressant de remarquer que Moïse, il vient jusqu'après tout ça. Okay? Donc, il vient dans une époque que le peuple, il savait déjà écrire. C'est intéressant aussi de voir que la plupart des religions qui existent aujourd'hui et qui ont des livres avec lesquels ils ont une base d'études, elles viennent tous après l'arrivée de l'écriture, Mais il a une religion qui existe depuis toujours, c'est le judaïsme. Parce que pendant une période qu'on n'avait pas l'écriture, nous avons vu comment ils ont vaincu, comment ils ont fait passer le message et comment ils ont fait passer la partie spirituelle des choses. On constate aussi que cette écriture qui s'est développée dans une région très spécifique, que nous allons voir tout de suite, et qui est la base de l'écriture que nous avons aujourd'hui, comme je vous avais dit, elle était une écriture assez pratique. Donc, 3500 avant Christ, les Sumériens avec les pictogrammes. 3000, les Égyptiens avec les hiéroglyphes. 2000 et 1500, le premier alphabet cananéen, il s'est développé. Et quand on regarde ici dans le map, dans le plan map, on voit qu'ils ne sont pas très loin un de les autres. Ils sont presque tous dans la même région. C'est curieux aussi que le début de Genèse, que ça a été aussi ici, et c'est de là que l'écriture, le développement de la civilisation, elle revient aussi. Ça, c'est l'évolution de l'alphabet. Juste pour curiosité, regardez ici le O. Qu'est-ce qu'il a ici comme image? Un oil. Un oil. Voilà. Ça a donné origine au mot, à la lettre O. Pour exemple, le P. Il est où le P? Ah, il est ici. Qu'est-ce qu'on a pour le P? Un pied. Pour exemple, un autre mot, le M. Les ondes de la mer. Donc, les pictogrammes, ils étaient dans une faction, pas théorique, hein, mais dans une faction pratique, que les gens puissent le comprendre assez facilement. Et nous avons voir que pour écrire quelque chose, on n'écrivait pas lettre par lettre, mais par agroupement des idées. Donc je mettais plusieurs symboles qui me donnaient une idée. Et donc ma phrase, c'était cette idée. Je partage avec vous une des premières phrases qui ont été écrites. Ce n'est pas la première, mais c'est une des premières. Ça, c'est une des premières phrases qui ont été écrites. Qu'est-ce que vous regardez là-dedans? Plusieurs choses. Si moi, je fais une traduction, je peux parler sur Google pour faire la traduction de ça, mais avec mon français un petit peu archaïque, on va dire comme ça, je fais la traduction de ça. Aujourd'hui, il faisait beau. Nous sommes allés à la chasse déguisée. Nous avons formé deux équipes. Les dames ont fait courir les animaux et les hommes ont chassé. Certains animaux se sont enfuis, mais nous avons attrapé plusieurs animaux. Les enfants regardaient pour apprendre. Ça, c'est la traduction de la phrase simple qui était là. Ici sont les femmes qui sont en train de faire le bruit pour que les animaux ils puissent avancer pour être attrapé dans l'autre côté par les hommes qui sont avec des flèches, voilà les moyens qu'ils avaient à l'époque. Et les enfants, il y a un enfant qui sont là du côté, hein, excusez-moi, du côté à voir toute cette scène, à faire aussi son apprentissage. Mais une chose simple, c'est ça. On la transforme avec ça, parce que ça c'était moi. Mais si je prends quelqu'un plus calé dans le français, lui va la transformer à ça. On va lire ensemble. Le temps était magnifique aujourd'hui. Nous avons donc décidé d'aller chasser tous ensemble déguisés. Comme la famille au complet était là, nous avons préféré faire des équipes. D'un côté, les femmes ont fait courir les hommes, je suppose, à l'origine, voilà. Les hommes, oh, se sont comme d'habitude chargés d'abattre les gibiers. Les enfants se deviennent de rester en retrait, mais n'ont pas perdu une minute du spectacle à la recherche du savoir-faire. Les battus feront couronner des succès, bien que quelques animaux nous ont échappé de justesse. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de dire avec tout ça? Voilà, c'est la question que vous êtes en train de vous poser. Cette évolution qu'on voit ici, cette évolution de transformer quelque chose qui était simple et pratique, je n'ai pas dit une chose. Aujourd'hui, ce que quelqu'un prend ça, il va faire on pourrait avoir plusieurs thèses de doctorat avec cette image. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'il a vu sur National Geographic qu'il a quelque chose, je ne sais pas où, et que ça donne voilà l'idée que au début c'était pas vraiment comme ça. Après, quelqu'un il va prendre un petit mot là, qui va le développer, il va à ses origines en grec et avec en latin, que ça va pas dire ça, mais ça va dire ça. Donc, il y a un truc simple et pratique. On fait des thèses de doctorat et que nous sommes tous pas dans le même sens, hein, parce que la base, c'est la même, mais on va aller dans plusieurs sens. Voilà. Je ne suis pas contre ça. Hein. Moi, j'aime bien tout ça. Mais ça nous devra, en même temps, faire réfléchir à chacun de nous. Parce que le groupe de mots que nous avons vu tout à l'heure, ça vient de ça. Le problème, c'est que parfois, on prend des mots et on va avec les mots faire un test de doctorat avec ce mot-là, et on oublie le plus essentiel, que c'est la pratique, que c'est les choses simples. Et on dit, ah non, moi, ça m'embête, celui-là, voilà, ça m'embête un petit peu le sapin, mais pourquoi ça vous embête un petit peu le sapin? Écoute, parce que quelqu'un m'a dit, oh, j'ai vu sur Facebook, oh, voilà, et on ne sait même pas pourquoi on n'aime pas le sapin. C'est vrai que c'est un symbole payant. Mais à moi, ça ne me dit rien, parce que moi, je ne le loue pas. Hein. C'est comme quand je passe à côté d'une église catholique, je vois les saints, je ne m'arrête pas pour faire le tour dans un autre quartier, parce que voilà, les saints, je suis pas avec, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je ne rentre même pas là-dedans. Ils sont là, à moi, ça ne me dit rien. Je passe, je entre. Donc, on résume. Qu'est-ce que c'est la pratique pour un chrétien? Bon, moi aussi, j'aime bien aussi d'aller dans le détail. La pratique ici, cette mot « ginomé », ça vient du grec. C'est-à-dire, le sens, c'est de commencer à être. Donc, cette pratique, c'est un mot que ça nous invite à commencer à être. Donc, ça nous invite à l'action. Ça nous invite à commencer à faire quelque chose. Là, ça nous invite à ne nous laisser pas seulement dans la théorie et aller dans la pratique. Si je aime mon frère qui est là à côté de moi, je parle avec lui et je lui demande comment il va. C'est le minimum. Donc, je mets en pratique. Je ne m'assieds pas à côté de lui et je reste comme ça. Ou si je vois quelqu'un qui est en difficulté sur la rue, j'essaie d'être pratique, je demande à la personne si elle a besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire pour elle. C'est la pratique, c'est de commencer à être. D'abord, ça nous invite à commencer à être avec les autres. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Bon, d'abord entre nous, déjà, et aussi vers les autres. 1 Jean 3, 17, 18, je peux le lire ici. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui frême ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc c'est ça, l'action, la vérité. le mot que nous avons parlé à tout à l'heure, hein, cette pratique, c'est de commencer à être. En conclusion, frères et sœurs, ça c'est ce que je vous avais présenté au début. Je vous laisse choisir ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais je vous laisse principalement réfléchir à les choses. Réfléchir, pour nous chrétiens, qu'est-ce que c'est plus essentiel? Qu'est-ce que c'est plus important? Qu'est-ce que c'est plus connecté avec les enseignements et avec les relations que nous avons avec Jésus? C'est ça pour nous que c'est le plus important. Et cette période, que si vous l'appelez Noël ou si vous l'appelez fête de fin d'année, n'importe qu'est-ce que vous appelez, qu'on puisse au moins nous ne pas laisser aller dans cette consommation, aller dans cette foule, dans les fêtes, dans ces types de choses, mais qu'on puisse nous concentrer avec les valeurs essentielles de l'Église, de la Bible. C'est la famille, ce sont les amis, c'est l'amitié, c'est aider les autres, c'est d'être avec les autres, nous approcher d'eux. Que cette groupe de mots, qu'on puisse bien les analyser et qu'ils puissent rester dans notre cœur et qu'on puisse partager avec les autres. Donc, pour une partie de vous, je vous souhaite une bonne fête fin d'année, que vous puissiez profiter de cette période d'amour, d'amitié en famille, avec vos proches, en pratique, partager cet amour avec ceux qui ont des besoins et sont en difficulté. Pour une autre partie de vous, je vous souhaite une bonne fête de Noël, que vous puissiez profiter de cette période d'amour, d'amitié en famille, avec vos proches, en pratique, partager cet amour avec ceux qui ont besoin et sont en difficulté, et pour tous les autres, qu'on puisse partager le message simple et pratique de l'amour de Jésus, et qu'être entre nous et vers les autres, qu'on ne puisse pas nous laisser être, vous savez, parfois nous sommes coincés dans les choses. Parfois, on veut aller le plus loin possible. Et cet aller le plus loin possible avec les mots, ça nous fait partir dans un sens qui on a oublié. Je suis pas contre ces sens parce que moi-même, même pour faire cette prédication, j'ai eu besoin d'aller dans les détails, d'étudier les choses. Mais parfois, cet détail, cette petite particularité, ça peut nous faire oublier du principe basique que c'est l'essentiel, merci, et que c'est la pratique, et que c'est les choses simples, parce que Dieu était un Dieu simple. Merci à tous, bonne fête, ah, j'ai oublié une chose, bonne fête fin d'année à tous.